Panorama économique.
Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de cette semaine sur Radio Okapi. Les titres, retour sur les SOS des importateurs dont les marchandises sont bloquées sur le fleuve Congo depuis plus d'un mois. À la base de cette situation, le sable et le niveau bas des eaux qui empêchent plus de 40 navires à atteindre les ports de Boma et de Matadi. L'actualité de la semaine, c'était aussi cette évaluation par le gouvernement de la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État. Débuté avec moins de 2500 comptes, la bancarisation a atteint à ce jour près de 700 000 salariés. L'exercice du petit commerce en RDC est l'apanage des Congolais. C'est le rappel à l'ordre des autorités de la province orientale cette semaine aux opérateurs expatriés exerçant dans cette partie de la République. Voilà pour le titre. Notre invité pour analyser l'actualité de la semaine, c'est l'entrepreneur Dim Diambwana. Il est le patron de l'entreprise Kedis. Dim, bonjour et bienvenue dans ce studio de Panorama économique.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Daniel Tambizoni et François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Le Bas-Congo, pour ouvrir cette rétrospective, ils n'en peuvent plus et lancent un SOS à la Congolaise des voies maritimes chargée du dragage du bief maritime. Eux, ce sont les opérateurs économiques, importateurs et armateurs dont les marchandises sont bloquées dans plus de 40 navires depuis plus d'un mois au niveau du bief maritime du fleuve Congo. C'est dans la province du Bas-Congo.
Un armateur et plusieurs importateurs qui ont échangé mercredi avec Radio Capi ont indiqué que ces navires ne peuvent pas emprunter le chenal sur le fleuve Congo pour atteindre le port de Boma et de Matadi. Et pour cause, le sable et le niveau bas des eaux, d'où la nécessité et l'urgence d'un dragage de cette bande maritime. Mais déjà plusieurs conséquences ont été enregistrées dans les différentes installations portuaires du Bas-Congo, comme nous explique Guirogé Niampala.
C'est depuis exactement 50 jours que des navires sont bloqués sur le fleuve Congo à la hauteur de l'île Boulambemba, selon un armateur. À l'heure actuelle, la Congolaise des voies maritimes, CVM, entreprise publique, qui gère ces secteurs maritimes en RDC, dispose d'une drague qui n'est plus opérationnelle. Faute de travaux de dragage du bief maritime, tout traîne. Les bateaux sont au mouillage, conséquence d'une part, il y a les frais supplémentaires à payer par rapport aux engagements pris et au temps perdu par les importateurs, les négociants en douane et les armateurs. Il s'agit notamment des frais de mouillage et autres. Deuxième retombée négative, le port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville est engorgé du côté terminal à conteneurs destiné au port de Boma et de Matadi, soutient un opérateur économique. La cause, les navires ne bougent pas car la voie maritime sur le fleuve est sablonneuse. La CVM, à travers son porte-parole, affirme qu'elle essaye tant soit peu de faire passer certains navires, mais elle attribue à la SCTP, Société commerciale de transport et des ports, ex-ONATRA, la responsabilité du manque d'engins de manutention. À ce jour, le port de Matadi est également engorgé parce que la SCTP n'a pas d'engins pour évacuer les conteneurs qui arrivent. Ceux qui ont été achetés il y a plus de 3 ans, soutient la même source, sont tombés en panne et la situation se détériore. Pour pallier à ce problème, les navires à forte tonnage sont en train d'alléger leurs charges en plein fleuve avec tous les risques encourus, indique un autre opérateur économique. Ils estiment, ces opérateurs, que cette situation a une incidence fâcheuse sur le prix des marchandises. Ils en appellent donc au gouvernement pour une solution durable à ce problème. Matadi, Guirogé Niampala, Écho d'économie.
Merci Guirogé Niampala et merci d'écouter Radio Capi à Matadi. C'est Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Le deuxième sujet, avant de donner la parole à notre invité, vous avez suivi cette semaine le dossier de l'interdiction de circulation imposée par le gouverneur du Kasaï occidental aux véhicules dont les pneus sont soupçonnés d'abîmer les routes. Les transporteurs ont crié après plus de 2 semaines d'inactivité. l'actualité. Et finalement, la mesure, nous l'avons appris mardi soir, a été levée, François.
Voilà, les véhicules de pneus prohibés peuvent enfin circuler à nouveau au Kasaï occidental. Le gouverneur de province a annoncé la levée de l'interdiction, mais de l'avis de transporteurs, c'est une décision assortie d'un moratoire de 4 mois accordé aux usagers de la route pour changer les pneus soupçonnés d'abîmer la route. Les transporteurs saluent tout de même cette décision du gouverneur, mais demandent à l'autorité provinciale que les termes du moratoire soient décidés de commun accord pour éviter de revenir à la case de départ après l'expiration du dit moratoire. Michel Ange Lokoto, président de l'Union des transporteurs du Congo, explique.
Les choses ont évolué dans le sens positif, c'est-à-dire que finalement, monsieur le gouverneur a levé la mesure. Mais notre inquiétude est que le gouverneur lève la mesure, mais assorti d'un moratoire, encore une fois unilatéral. C'est-à-dire quoi? Il y aura moratoire, que ce moratoire soit discuté entre le parti. C'est ça même l'esprit de la lettre du vice-premier ministre. C'est-à-dire qu'il y aura un moratoire, mais discuté entre le parti, Radio Capi. Si pendant ces 4 mois, la route n'est pas réparée, la route n'est pas entretenue, est-ce que ce sera le problème du transporteur? Puisque je vous ai dit hier que nous utilisons cette route malgré nous. C'est la route qui nous pousse à les utiliser.
Donc la mesure est levée, mais elle est assortie d'un moratoire. Mais qu'est-ce que prévoit ce moratoire? Vous avez parlé de 4 mois, mais pendant ces 4 mois, qu'est-ce qui se passe?
Ça, il n'y a que monsieur le gouverneur qui le sait. Le jour qu'il nous a reçus à l'hôtel du fleuve à Kinshasa, il était dit que lui prenne en charge la réparation ou l'entretien de la route et nous nous engageons à ne plus utiliser cette nuit. Mais aujourd'hui, il dit, bon, je lève la mesure, puis alors, pour un moratoire de 4 mois. Mais pendant tous ces 4 mois, si la route n'est pas entretenue, si la route n'est pas réparée, eh bien, nous allons faire quoi, M. Daniel?
Donc, vous ne croyez pas à une volonté du gouverneur cachée derrière cette décision de réparer la route pendant ce temps?
Oui, mais s'il y a une volonté, la volonté devrait être exprimée, c'est comme un accord, puisque pourquoi on doit craindre un document signé entre le parti?
Et nous disons que les tentatives n'ont pas abouti. On voulait bien avoir la réaction du gouvernorat, mais ça n'a pas marché. Nous tenterons peut-être la semaine prochaine, si nous pouvons avoir les précisions du gouverneur de la province du Kasaï occidental. Nous retrouvons dans ce studio notre invité, Dim Diambouana. C'est lui qui commente l'actualité de la semaine avec nous. Dim, vous êtes opérateur économique. Un problème d'infrastructure, de transport sur les eaux de la RDC et sur la terre, donc il y a du problème avec les bateaux qui ne savent pas coster parce que les niveaux des eaux ne permettent pas aux bateaux d'avancer et d'accoster à Beaumaya, Matadi et du coup de part ou d'autre aussi. Il y a des ports qui sont engorgés, on ne sait pas dégager, et aussi sur terre, c'est cette polémique entre le gouverneur et les transporteurs routiers. Votre commentaire?
En tout cas, bon, merci déjà pour la parole. Par rapport à ça, je vois que c'est des problèmes similaires. Je trouve que carrément que c'est un problème de gestion et de prise de décision par rapport à ce que nous faisons, par rapport à notre partiel de responsabilité. Voilà, dans un cas ou dans l'autre, premièrement, c'est des sociétés publiques qui sont censées avoir...
La CVM, oui. si la CVM ne drague pas,
voilà,
le bien.
Une société qui sait que... Voilà,
au quotidien, qu'est-ce qu'elle fait?
Son objectif est... Voilà, d'entretenir son réseau, c'est-à-dire quand il entretient ce réseau, c'est pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir écouler leurs biens. Et s'il ne se responsabilise pas, s'il ne fait pas correctement son travail, c'est clair que ça aura une répercussion auprès de la population. Donc quand nous prenons nos décisions, quand nous avons une certaine parcelle de responsabilité, nous devons penser aux consommateurs finaux qui sont cette population, car ces consommateurs, ils ont une bonne condition de vie, qu'aujourd'hui, ils auront quand même, ils se disent, voilà, nous pouvons hacker dans d'autres préoccupations, nous aurons une certaine paix sociale. Donc, que ça soit au niveau du gouvernement, du gouvernement, il y a un problème, un conflit. Les opérateurs économiques disent, voilà, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas utiliser d'autres pneus parce que les routes sont dans cet état.
Ils ont cherché des pneus adaptés à la situation de la route.
Et actuellement, par rapport à ça, vous dites, voilà, nous ne voulons pas que ces pneus puissent emprunter ces routes parce qu'ils dégradent carrément la route. Mais est-ce qu'on pense la personne qui souffre, c'est le petit peuple. Ce petit peuple. Donc, sachant que un circuit économique, c'est une chaîne, par rapport à cette chaîne, il y a les gens qui produisent, il y a des distributeurs, il y a des consommateur final. Donc, par rapport à nos décisions, à ce que nous allons faire, prendre comme directive, pensons à ce petit peuple qui peut en partir par rapport à notre, soit notre décision, celle qui ne sera pas.
Suite de ces dossiers de la semaine, le troisième dossier, 73% des salariés qui relèvent du trésor public sont à ce jour payés par la voie bancaire. Cela représente près de 700 000 agents et fonctionnaires de l'État contre moins de 2500 lors du lancement de la bancarisation en août 2011.
Voilà, ces chiffres sont fournis par le président du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État qui les a révélés jeudi. Lors du lancement à Kinshasa d'un atelier sur pour évaluer la mise en œuvre de cette réforme. Toutefois, Jean-Louis Kaimbe Wakaimbe précise que cette réforme connaît encore de problèmes, notamment dans les zones du pays dites d'accès difficile. On l'écoute au micro d'Agathe Ponaïlema.
Avec notamment un taux de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État situé à 73%. Toutefois, il convient de noter que la réforme n'avance pas au rythme escompté dans les territoires à accès difficile. En outre, des problèmes d'ordre technique liés essentiellement au mouvement des militaires, à la mobilité des enseignants et au nombre réduit des guichets de banque dans certains territoires se posent avec acuité, entraînant la multiplication des ex-tournes et les retraits des effectifs gérés par les banques ou leurs sous-traitants pour les confier provisoirement à d'autres intervenants, notamment Caritas Congo, afin de préserver la régularité de la paie et sa proximité vis-à-vis des bénéficiaires. L'heure est donc propice pour procéder à une évaluation globale et plus profonde de la réforme.
Jean-Louis Kayembe Wakayembe, directeur, le président du comité de suivi de la paie des fonctionnaires de l'État. Et nous allons prendre la direction de Kisangani en province orientale pour ce dernier dossier de la semaine. À Kisangani, justement, les vendeurs en détail dénoncent le non-respect par les expatriés de l'ordonnance loi qui réserve la pratique du petit commerce aux seuls nationaux.
Selon ces détaillants, cette situation ne leur permet pas de bien exercer leurs activités. Interpellé, séance tenante, le chef de division provinciale de l'économie, sans soutenir ses propos par un texte légal, a affirmé que l'État congolais autorise aussi les expatriés à exercer en détail. Propos rejetés par Madame le commissaire provincial à l'économie et commerce. Rappelant la loi, Yolande Ebonga a appelé tous les opérateurs économiques à s'y conformer sous peine de poursuites légales. On l'écoute au micro d'Assen Massoua.
L'ordonnance loi numéro 79/021 du 2 août 1979 réserve la pratique du petit commerce en RDC aux nationaux. Jusque-là, il n'y a pas un autre acte réglementaire qui a abrogé celui-là. C'est pour dire que le commerce de gros est réservé aux expatriés. Et le petit commerce, c'est aux nationaux, uniquement aux nationaux. Et le ministre national de l'économie de l'époque a insisté sur la mise en application de cette ordonnance-loi. En 2012, en 2014, il a encore envoyé une autre circulaire. Et là, nous en appelons à tous les opérateurs économiques étrangers qui œuvrent au niveau de la province orientale de pouvoir se régulariser par rapport à cette loi. C'est déjà un message que je passe pour d'abord sensibiliser. Pour ceux-là qui ne connaissaient pas la loi. Et ceux qui connaissent la loi, c'est un rappel. Au cas où il y a des récalcitrants, la loi va faire son travail et chacun va répondre selon ses actes.
Madame Yolande Ebonga, commissaire provinciale à l'économie et commerce, qui rappelait à l'ordre. Alors, nous retrouvons notre invité, Dimi Diambona, deux sujets dans les deux derniers sujets de notre dossier de la semaine. L'évaluation de la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État et ce rappel à l'ordre, il faut laisser le petit commerce aux Congolais.
Oui, concernant la bancarisation, déjà c'est une bonne chose que nous puissions qu'il y ait une progression, c'est très bien.
On est passé de moins de 2500 à près de 700 000 salariés aujourd'hui.
Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours penser d'abord sur le terrain à la pratique, c'est-à-dire aux personnes, aux bénéficiaires. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont dans des recoins inaccessibles et voir comment améliorer aussi cette situation. Et si les banques n'arrivent pas à satisfaire clairement et tout la clientèle de l'autre côté, que l'État aussi prenne ses responsabilités en voyant un restaurant, par exemple, la Cadeco et d'autres caisses et tout, voir comment les peut prendre aussi en main, parce que de toute façon cette pratique bancaire et tout, quand ça rentre dans nos mœurs, c'est déjà quelque chose de très bien déjà, même si nous savons peut-être l'argent ne reste pas nécessairement et tout, et il y a encore beaucoup de choses à dire aussi pour les pratiques bancaires. Concernant le deuxième sujet, je rappelle à l'ordre, moi je suis vraiment aussi pour l'application d'un protectionnisme aussi, donc il faut arriver quand même à pouvoir permettre ces Congolais, nous en tant qu'autochtones qui voulons réaliser nos rêves, faire quelque chose, ces petits si nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas encore accès à des crédits suffisamment, nous n'avons pas des capitaux, mais nous voulons du travail. Donc, permettez-nous quand même aussi que nous puissions nous exprimer, c'est-à-dire faire quelque chose pour faire avancer aussi. Donc, pour moi, ce protectionnisme, il faut respecter cette loi, rappeler à l'ordre et tout que le petit commerce, c'est réservé aux Congolais.
Jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre, oui.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, en bref, nous avions parlé lundi du lancement par la mairie de Bukavu de l'opération d'identification des vendeurs du marché central de Kadutu, cela en prévision d'une éventuelle délocalisation en attendant le déroulement des travaux de construction de ce plus grand marché de la ville de Bukavu. Les travaux sont financés par la Banque mondiale à travers le programme de développement urbain et cela concerne aussi la modernisation d'un autre marché urbain de la ville de Bukavu. Lundi toujours, c'était en principe lundi, l'ultime journée donnée à la direction générale de la MARSAFCO pour déposer au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, les états de paye de 686 personnes qui avaient été licenciées en 2001. Le représentant avait indiqué à Radio Capi que cette demande a été formulée en fin de la semaine dernière par Willy Makiachi, qui veut voir ces personnes rentrer dans leurs droits. Jean-Marie Lokoto a également souligné qu'après la rencontre de toutes les parties sur invitation du patron du travail, les choses sont claires et MARSAFCO doit s'exécuter en payant plus de 24 millions de dollars américains d'indemnité comme décidé par la justice.
Le conseil d'administration de la Banque mondiale a octroyé à la RDC un don de 52 millions de dollars américains. Ce financement servira à améliorer la sûreté, la sécurité et le fonctionnement de l'aéroport de Goma. Les administrateurs du groupe de la Banque mondiale ont pris cette décision au cours de leur réunion du 13 mars dernier. Et puis le consortium FAO-PAMFIDA, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et les acteurs dans le secteur se sont retrouvés mardi à Kinshasa pour réfléchir sur les devenirs du secteur agricole. Les réflexions ont été centrées sur la gouvernance du secteur agricole, qui est l'un des moteurs du développement économique du pays. Le représentant de la FAO en RDC a fait savoir que le niveau d'investissement dans le secteur agricole est faible et c'est parmi les défis à relever.
Une nouvelle société s'installe en République démocratique du Congo. Il s'agit de Strong Technologies. Elle est déjà installée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Elle a obtenu sa licence de distribution de la télévision via satellite. Selon son patron qui séjourne à Kinshasa et qui a tenu une conférence de presse mercredi, les décodeurs de Strong Technologies vont permettre aux Congolais de capter sans abonnement plus de 150 chaînes étrangères. Les prix des denrées alimentaires et autres articles de première nécessité ont connu une flambée à Tchonka, centre commercial de Lulingu et dans la cité de Lulingu, territoire de Shabunda, depuis plusieurs mois. Par exemple, un sac de farine de maïs qui se vendait à 15 dollars à Bukavu se vend actuellement à 70 dollars à Lulingu. Cette situation est due à la rareté des vols sur l'aérodrome de Tchonka depuis les deux derniers crashs d'avion au mois d'août et au mois d'octobre de l'année passée, avait déclaré Radio Kapi Joseph Mukolo, président de la FEC secteur de Tchonka Lulingu.
Nous allons nous rendre au Katanga où se tiendra au mois de mai prochain la deuxième édition de Katanga Business Meeting. C'est le salon de l'entreprise organisé par l'agence Moussal. Ce salon, selon ses organisateurs, se veut un espace de rencontre entre petites et moyennes entreprises et les grandes afin d'engendrer les opportunités d'affaires et de favoriser la mise en réseau d'entreprises de différents secteurs. Le responsable commercial de Moussal et sa RL a animé jeudi à Kinshasa une conférence de presse où elle a annoncé l'événement et fait le bilan de la première édition de 2014. Il y aura 120 stands en 2015 contre 114 en 2014 et plus de 4000 visiteurs sont attendus, avait dit Martine Balikouche. Terminons cette série par Kisangani en province orientale où une centaine d'opérateurs économiques œuvrant autour du marché central ont été sensibilisés mercredi sur le paiement de l'assurance incendie. La SONAS Santander, Société Nationale d'Assurance, veut faire comprendre à ses opérateurs économiques le bien fondé de cette assurance.
Panorama économique, matière première.
Les prix du pétrole, du cuivre et de l'or dont la RDC est exportatrice sont en baisse sur les marchés mondiaux, tandis que le cobalt s'est maintenu à plus de 32 000 dollars américains la tonne métrique. Ceci est l'un des points examinés lundi matin au cours de la réunion de la Troïka stratégique autour du Premier ministre. Le ministre de l'économie qui a fait le compte rendu de cette rencontre a également fait mention de la dépréciation continue de l'euro face au dollar américain. Modeste Obatiloukoubo explique.
Sur le plan international, le cours des matières premières a connu une baisse en ce qui concerne le pétrole qui est passé de 60,22 à 54,38. La même chose pour l'or qui est passé de 1202 à 1163. Le cobalt resté au même niveau que la semaine passée, c'est-à-dire 32 369 dollars la tonne métrique. Mais pour ce qui est du cuivre, il y a une baisse passant de 5 887 à 5 806, donc une baisse de 6%. Je voudrais également parler de la parité euro-dollar. Le dollar continue à se raffermir par rapport à l'euro et il est à 1,07 contre 1,13 la semaine passée. Et donc, il tend vers l'égalité, donc 1 dollar pour 1 euro. Sur le plan intérieur, d'abord, s'agissant des finances publiques, elles se comportent très bien. Au niveau de la Banque centrale du Congo, les réserves en devises sont à 1 milliard 730 millions de dollars.
Panorama économique sur Radio Okapi, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio, c'est le dernier tournant. Avant de donner la parole à notre invité bouclé cette émission, nous allons lui déposer la dernière question. Dans ces derniers éléments, Dean, vous avez suivi, l'euro est en train de se déprécier continuellement face au dollar. Vous êtes opérateur économique, qu'est-ce que cela peut signifier pour vous?
Oui, actuellement, bon, si je parle personnellement, cette situation, ça me plaît pas trop parce que moi je vis dans la zone euro.
Actuellement, vous êtes dans la zone euro.
Donc, ouais. Ça me faisait plaisir quand je venais ici avec des euros et que ça avait quand même de la valeur. Mais il faut dire que actuellement, vous savez, il y a eu quand même un impact en Europe. C'est-à-dire, j'ai suivi le président François Hollande, donc c'est déjà bien fait pour leur économie, car les gens peuvent actuellement aller acheter facilement en France, donc il y a création d'emplois là-bas, mais l'impact sur le Congo, ça, je ne sais pas, et je ne suis pas économiste, je suis juste gestionnaire d'entreprise et fiscaliste B. C'est donc comme dans toute situation, ça fait des euros d'autre part et des malheureux de l'autre côté.
Et voilà. Et avant de terminer, j'ai annoncé, vous êtes chef d'entreprise, oui. Vous êtes gestionnaire. Oui. Est-ce, quelle est la santé de Kedis? C'est encore Kedis, comment?
Kedis Business.
Kedis Business, est-ce qu'on peut avoir la santé de Kedis Business aujourd'hui? C'est comment?
Oui, Kedis Business, ça se passe très bien. Donc, actuellement, nous avons eu une autre agrégation auprès du CPCC, Conseil Permanent pour un de nos produits, qui est Kedis Compta, qui est un logiciel de comptabilité générale.
Ah, il faut rappeler oui. À nos auditeurs.
Nous sommes une entreprise de conception et de commercialisation des logiciels de gestion et de comptabilité. Donc, nous avons créé notre premier logiciel qui était un logiciel de comptabilité générale, qui était destiné aux entreprises qui publient les comptes. Donc, comme vous savez qu'avec le droit WADA, nous avons l'obligation de publier nos comptes d'après le système comptable WADA. Et ce logiciel a été agréé auprès du CPCC, qui est en état conforme au droit WADA. Donc, c'est un logiciel qui est destiné à être vendu sur 17 pays. Et nous avons pris comme point de départ en République démocratique du Congo, où nous sommes issus. Mais en outre, nous concevons aussi des logiciels pour les petites entreprises. Là, nous avons lancé un logiciel qui s'appelle Kedis Resto Bar, qui est un logiciel de gestion de restaurants. C'est-à-dire, vous avez vos restaurants, ça s'adapte aux réalités africaines.
Contrairement, vous avez une petite pharmacie.
Contrairement aux autres logiciels, donc c'est-à-dire qu'aux autres logiciels qui sont conçus, par exemple, à l'aéroport, vous savez que le commerce, même la gestion, s'adapte quand même à certaines mœurs. Nous avons créé ce logiciel qui est destiné essentiellement aussi aux Africains, mais qui est aussi utilisé dans d'autres pays, c'est-à-dire que nous vendons aussi sur le net, donc en Belgique, on l'utilise. En outre, nous avons aussi des logiciels qu'on appelle logiciels de points de vente, qui permet aussi de gérer tout ce qui est pharmacie, vos points d'alimentation, vos
bibliothèques.
Donc, c'est-à-dire des commerces de détail. Donc, bref, nous sommes une entreprise qui crée des solutions dans tous les secteurs pour les entreprises, les hôpitaux.
Quel avantage ONG, moi j'ai à gérer mon entreprise à base d'un logiciel que de le gérer? Bon, j'engage François comme mon gestionnaire, je lui donne de la fourniture, il a les papiers, le BIC, et il gère au quotidien alors qu'au lieu d'un logiciel.
Savez,
quel est l'avantage avec un logiciel?
Vous savez, aujourd'hui vous donnez à monsieur de gérer avec un BIC, un silo, vous ne savez pas faire des comparaisons, par exemple, sur ce qui a été fait au mois, l'année passée, au mois de décembre, savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé en décembre et aujourd'hui avec mon fonctionnement, et savoir voir l'évolution de vos ventes ou bien l'évolution de vos dépenses pour prendre vos mesures de gestion. Et en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui,
c'est qu'avec un logiciel, les états financiers sont générés automatiquement
et vous pouvez voir l'évolution de vos ventes, l'évolution de vos dépenses, l'évolution de vos achats, calculer effectivement vos bénéfices et gérer votre trésorerie. Par exemple, dans le logiciel de point de vente et tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde concurrentiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez eu un restaurant ici au Congo, vous pourriez avoir plusieurs restaurants, des chaînes de restaurants, car nous avons des objectifs de prospérer. Mais avec tout ça, comment vous pourrez arriver à gérer tous vos points avec chercher juste à avoir des rapports par-ci par-là par téléphone? Mais sinon, si vous avez un logiciel, par exemple, comme Kedis pour contact, Kedis point de vente ou Kedis resto bar, vous pouvez suivre l'évolution au jour le jour et même par internet voir vos états, comment ce gestionnaire a géré dans mon point de vente qui se trouve par là, qui se trouve par là, par là. Et donc, c'est très intéressant.
Et depuis que vous existez, comment vous trouvez le marché de Kinshasa, pour ne pas dire le marché de la RTC, par rapport à vos produits? Quel est le comportement du marché local?
C'est de plus en plus, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, déjà parce que des jeunes qui sont habitués avec ces nouvelles technologies, qui sont parmi nos clients, nous avons vu donc des gens, quand nous concevons nos produits sont souvent construits donc. C'est des produits Windows, c'est-à-dire quelqu'un qui surfe sur Internet, qui a l'habitude d'aller sur Facebook, se retrouve, c'est-à-dire dans notre environnement. Donc c'est comme un jeu d'enfant et c'est très facile d'utilisation. Et nous avons vu, comme étant donné que les gens sont de plus en plus ancrés, de plus en plus dans nos mentalités, on utilise de plus en plus ordinaire, ça passe facilement. C'est vrai, dans d'autres coins, on est toujours buté dans les vieilles méthodes, c'est-à-dire je prends une feuille, pour écrire les états et je ne sais pas comment ça avance, mais il faut ça quand même quelque chose de pédagogique parce que nous devons mettre dans la mentalité que voilà, le commerce a évolué. Maintenant, c'est la technologie qui rentre, donc on doit arriver à ce. Et si nous voyons des expatriés, d'autres personnes dans d'autres pays, que ça se développe parce qu'ils ont quand même des suivis de gestion appropriés. Donc on doit arriver maintenant à mettre, voilà, ne pas rester seulement dans des commerces de ghetto. Maintenant, nous devons arriver à évoluer, avoir aussi des perspectives de conquérir l'Afrique. Oui, les Congolais, dans des environnements clairs et nets, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et je crois en Congolais.
Merci beaucoup, Dim Diambona, patron de Kidis Business. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir voulu donner de vos commentaires et analyses sur l'actualité de la semaine. Ainsi s'achève Panorama Économique, cette émission que je vous convie à retrouver sur www.radiookapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Merci, au revoir.